Nous sommes le 20 avril. Vous écoutez Québec Réveil, la matinale de CKIA au 88,3. Et ça s'en vient, ça approche, la grande manifestation sur la justice sociale et climatique pour le jour de la Terre. Ça fait quelques jours quand même qu'on en parle ici à l'émission dans différents contextes. On peut dire qu'on a mis la table. Certaines personnes vivent de la colère devant l'inaction des gouvernements face à l'urgence climatique et ça se comprend. D'autres vivent de l'anxiété. On parle d'éco-anxiété notamment. Les jeunes se sentent particulièrement concernés. Cette grande manifestation sur la justice sociale et climatique pour le jour de la Terre a lieu le 22 avril, donc c'est très bientôt. Avec nous, François Proulx-Dupéré, secrétaire général du Conseil central Chaudière-Appalaches de la CSN, Judy Coulombe du regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Allô.
Merci de nous recevoir.
Ça fait plaisir. Qui fait partie de la coalition? Qui organise cette grande manifestation? François?
Bien, c'est intéressant. La coalition est formée d'à peu près 5-6 grands groupes. Là, on représente les étudiants, les groupes de femmes, les groupes environnementaux, les syndicats, les groupes citoyens aussi. Fait que c'est une coalition qui est quand même assez large, là, qui se veut sociale et citoyenne, effectivement.
Oui. Bien, parlons justement des jeunes que vous représentez, peut-être. Ça dépend de l'âge qu'on a. Vous êtes des gens qui ont peut-être un peu plus d'expérience, mais j'aimerais savoir c'est quoi l'énergie, justement, des jeunes qui sont dans l'organisation, qui font partie, justement, là, de cette coalition-là et qui se mobilisent en ce moment. C'est quoi le sentiment qui les anime, Judy?
Bien, c'est sûr que les associations étudiantes qui prennent part à la coalition, ce qu'on voit dans leur attitude puis dans leur discours, c'est vraiment un sentiment d'impuissance face à l'avenir puis d'injustice surtout. Quand on entend des jeunes, aussi jeunes que secondaire 5, nous expliquer à quel point c'est aberrant de voir que eux, depuis qu'ils ont 5 ans, on leur dit de faire du recyclage, puis qu'ils ont été élevés dans un monde où c'était comme possible, les gestes individuels, comme si c'est une bulle qu'on leur a fait miroiter, puis finalement, ben, ils se rendent compte que, ben non. Les gestes individuels, tu sais, c'est bien beau, mais c'est difficile de prendre le transport en commun quand c'est pas abordable. Puis le zéro déchet aussi, c'est pas particulièrement accessible à tout le monde. Donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est de l'impuissance et de la colère.
Oui, tout à fait. Dans la description de votre événement, vous dites, que c'est en réaction, bien sûr, aux événements météorologiques extrêmes, augmentation du coût de la vie, les problèmes de santé, destruction des milieux naturels. On parle d'érosion des berges aussi. Et les conséquences de la crise environnementale, bien sûr, ne sont plus à démontrer, là. Et vous indiquez que seules les solutions collectives et solidaires permettront d'y faire face. Pourquoi c'est important de trouver des solutions collectives et solidaires, François?
Bien, c'est important parce que le leadership que ça prend pour adresser l'urgence climatique puis cette crise-là, là, tu sais, qu'on vit au quotidien justement par les événements, faut que ça parte notamment des paliers de gouvernement, municipal, provinciaux, fédéraux. Puis on pense que on aimait bien les images à l'époque qui étaient utilisées il y a quelques années. Mettons, la maison est en feu, c'est le temps de réagir rapidement. T'sais, on a le sentiment que l'urgence est là. Judy vient d'en parler, la jeunesse pousse le plus possible parce que l'urgence est là. Fait que c'est pour ça qu'on s'adresse notamment au palier de gouvernement, mais parce que les solutions doivent être collectives. C'est les gens, de par leurs actions individuelles, vont être capables d'embarquer dans le train là, du changement puis de tout ça. Puis c'est important qu'on le fasse toutes et tous. Mais sans des mesures structurantes, là, importantes, là, des personnes élues, et des entreprises,
ben oui,
et des groupes.
Ça peut être décourageant de faire des gestes individuels quand, justement, on constate la tarte des grands pollueurs, puis on se dit, ben coudonc, s'il y en a... Si les gros pollueurs font rien, puis que nous autres, on fait nos petits gestes à chaque jour, puis que finalement, ça nous demande d'énergie, ça nous demande d'être consciencieux, même que des fois, ça nous demande beaucoup de temps, d'organisation. Je pense au zéro déchet, notamment, qui est souvent assumé par les femmes. Je regarde Judy, mais la charge mentale de ça, elle est quand même assez lourde. Bref, c'est pas juste, ce n'est pas juste de voir que les gros pollueurs ne font pas grand-chose. Il y en a qui font quelque chose, mais quand même, de là l'importance d'avoir des solutions collectives.
Ben effectivement, puis on s'attendrait que les gouvernements s'attaquent notamment aux plus riches ou par des mesures structurantes, soit par des taux d'imposition, ou puis aussi en passant par les entreprises, puis par une transition juste, puis on pourra peut-être en parler plus tard. Mais il faut sortir de ce problème-là où les gens se sentent coupables individuellement, puis regardent par en haut, puis le retour de l'ascenseur n'est pas là. Les gens sont tannés de ça, t'sais. C'est ça qu'on sent. Puis partout dans la société civile, c'est pour ça qu'on s'organise, parce qu'on se dit, nous autres, on restera pas dans l'inaction, t'sais. On va être du bon bord, puis on va pousser le plus possible. Puis c'est pour ça qu'on s'attend à une grande participation en fin de semaine. Ben, on est bien fébrile aussi.
Oui, puis c'est très intéressant parce que ce matin, il y avait un article sur une femme qui fait du dumpster diving, là, qui plonge dans les poubelles pour aller chercher des déchets. Puis c'est une femme de Trois-Rivières. Il y a un journaliste qui l'a suivie, puis elle disait, c'est bien beau justement remplacer les pailles de plastique avec des pailles de carton chez soi ou dans les restaurants, mais si on n'instaure pas des réglementations plus sévères pour les commerces, par exemple, qui jette et qui jette des aliments dans les poubelles parce qu'elle, elle est témoin de ça. Elle ramasse toutes sortes d'affaires. C'est atroce. Il y a eu des articles qui ont sorti là-dessus avec sur Couche-Tard, Home Depot aussi, qui jette toutes sortes d'affaires. Bref, c'est important d'instaurer des réglementations pour les grands qui font beaucoup, beaucoup de mal à l'environnement. Judy, tu représentes le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale. L'impact des changements climatiques pour les femmes, il est très présent et plus présent que pour certaines autres catégories là, de population. Les hommes, mettons.
Ah, mais, on ça, c'est clair. Tu sais, on vient de le nommer l'insécurité alimentaire. Bien, dans la plupart des ménages, c'est une responsabilité et une charge qui est assumée par les femmes. C'est sans compter les femmes chefs de famille monoparentales sur qui la pression est particulièrement forte, notamment avec la crise du logement à laquelle on assiste en ce moment. Ce qu'on voit, c'est que la crise climatique et la crise de l'environnement, c'est aussi une crise économique. On peut pas se le cacher, là. Ça va ensemble. Puis, ça exacerbe les inégalités qu'on connaissait déjà. Pendant que les gaz à effet de serre reprennent de plus belle, on le disait cette semaine, là, puis les grandes entreprises utilisent les fonds carbone pour plutôt s'acheter des droits de polluer que véritablement réduire leur empreinte écologique. Pendant ce temps-là, on voit vraiment la société la plus marginalisée qui souffre directement de ce manque-là qui est là. Puis ce qu'on voit, c'est que la crise environnementale va demander de plus en plus un filet social solide pour accueillir que ce soit des réfugiés climatiques, l'augmentation de la pauvreté, les enjeux que ça va avoir sur la santé. Fait que, tu sais, de voir qu'un gouvernement ne voit pas cet aspect-là macro de la crise, c'est un peu décourageant, tu sais, puis de prendre chaque petit morceau un à un comme si c'était pas urgent, finalement.
Oui, tout à fait. Bon, cette fameuse transition juste dont on parle beaucoup, là, ça veut dire, entre autres, ne pas laisser personne de côté. Du côté de la CSN, François, là, on pense tout de suite aux travailleurs et aux travailleuses. Ce serait quoi votre crainte?
Ben, il y a des craintes, puis il y a des choses qui nous animent, qui nous motivent là-dedans. Les craintes, c'est de voir des organisations puis des employeurs être dans le déni, puis pas voir le mur arriver, pas se rendre compte que dans leur secteur d'activité, il va y avoir des changements majeurs, il va y avoir des gens qui vont devoir être requalifiés, il y a des gens qui vont devoir retourner aux études, etc., qui vont se retrouver dans un trou, là, tu sais. Fait que cette transition-là, faut vraiment qu'elle soit juste et inclusive, puis les travailleuses puis les travailleurs, ils ont vraiment les deux mains dedans, tu sais, au quotidien. Ils savent exactement ce que ça peut prendre. Prenons un exemple concret, là, dans une shop, dans le privé, mettons, en Chaudière-Appalaches, dans l'industrie manufacturière. Les travailleuses et les travailleurs, ils savent exactement ce que ça va prendre pour, exemple, transformer l'usine, l'amener à faire un produit qui peut être parfois même différent, changer complètement de vocation. Puis nous, ce qu'on veut comme mouvement syndical, c'est d'être capable de se placer comme un peu une personne médiatrice entre les employeurs, les organisations, puis en partenariat avec nos syndicats, les travailleuses puis les travailleurs, pour amener les solutions, pour dire, ben nous, on pense que c'est là qu'il faut s'en aller.
Oui. Et consulter donc les travailleurs, les travailleuses à la base, qu'ils fassent partie de la réflexion.
Ben, effectivement. Ben, probablement que cette réflexion parte de la base, puis a une impulsion vers le haut. et non que ça vienne d'en haut vers le bas pour que ce soit imposé. Toutes ces choses-là, ces mariages-là sont possibles. On le voit déjà dans certaines entreprises, dans certaines organisations. Mais nous, notre rôle, c'est drôle, notamment d'être le chien de garde là-dedans, puis de dire, hey, levez le red flag, puis là, on va être rendu là, avez-vous pensé à ça, etc. Parce qu'on veut pas se retrouver avec, par exemple, des travailleuses puis des travailleurs qui sont mis à la rue, etc., parce qu'on a des employeurs qui se sont pas revirés de bord.
Ben, c'est ça, parce qu'on a oublié d'y penser.
Tout à fait.
Puis que, ben oui, les situations pourraient être subites et pourrait y avoir des impacts imprévus. Puis là, ça peut être davantage dramatique pour les travailleurs et les travailleuses. Bon, la STL, la Société de transport de Lévis, a répondu à votre demande concernant la gratuité du transport en commun pour se rendre à la manifestation le 22. Vous avez fait la même demande auprès du RTC, si je ne me trompe pas, Réseau de transport de la capitale. Avez-vous eu des nouvelles?
Ben, on est content parce que avec la ST Lévis, ça a été assez rapide. Dès qu'on a tendu une perche, on a eu une réponse favorable, ça a été confirmé rapidement par la suite. Avec la ville, là, ça tergiverse pas mal plus, là. Autant que la ville de Québec, là, avec le maire, bureau du maire Bruno Marchand, ainsi que toute la gang du RTC, là. Ça fait une dizaine de jours, là, qu'on est en échange avec eux, qu'on attend des réponses. Hier, on a encore sorti un communiqué de presse, là, pour dire qu'on était encore en attente. On est vraiment surpris, là. Parce que...
Que ça débloque pas.
Que ça débloque pas, parce que le RTC a déjà annoncé, par exemple, une tarification sociale qu'on salue. Là,
qui pour, embarque aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est super intéressant. Puis notamment, le junior majeur est en série en ce moment. Puis
c'est gratuit.
Ben, là, on se demande, dans le cadre du Jour de la Terre, qu'est-ce qu'ils attendent. Il y a un paquet de villes au Québec, en plus, qui ont emboîté le pas. Saguenay, Trois-Rivières, Montréal et Québec, on est toujours en attente. Bon, un des arguments utilisés, c'est de dire ça coûte tant. Mais 50 000 piastres là, dans le budget là, du RTC ou de la Ville de Québec là, pour envoyer un signal fort aux citoyennes et citoyens de se déplacer pour la manif, on pense que c'est une goutte d'eau là, dans le budget annuel.
Politiquement, le gang là, qui nous écoute, M. Marchand, c'est payant faire ce genre d'affaires-là. Non, mais il me semble que c'est pas compliqué. Là, Judy...
Ah, c'est clair. Puis, tu sais, quand on parle de changement systémique puis d'avoir une vision à plus long terme, encourager le transport en commun, c'est comme dans les actions assez importantes à mettre de l'avant. Et ça nous semble particulièrement incohérent venant d'une administration qui en fait son drapeau, presque.
Ah oui, tout à fait. C'est vrai, c'est pas logique.
C'est quand même incohérent de leur part là, d'être autant dans l'hésitation par rapport à notre demande. Puis, on voyait même la Société de transport du Saguenay, puis tu sais, de plusieurs autres municipalités où on se dit, OK, tu sais, eux autres, ils ont compris que c'est une bonne journée, le Jour de la Terre, pour faire la promotion.
Il me semble que oui. Il reste aujourd'hui puis demain, ils vont peut-être répondre incessamment.
Ben, tout à fait, on est encore en attente là, de la réponse.
Ouais, c'est ça.
La gang
c'est
marchand,
pas non, là, c'est pas oui.
C'est pas non, c'est pas oui, mais là, ouais, c'est ça. Puis on commence à être impatient, puis on pense aux citoyennes et citoyens aussi là-dedans.
Ouais. Bon, le point de rendez-vous est proche du Musée national des beaux-arts du Québec, sur les plaines, à 13h.
Tout à fait, c'est devant le Musée national des beaux-arts.
Devant, oui. OK. On se rend ensuite à l'Assemblée nationale?
Tout à fait. On part par Grande Allée, on va prendre sur l'avenue Cartier. Puis ensuite, on va revenir par Turnbull pour se rendre jusqu'à l'Assemblée nationale. On pense arriver à l'Assemblée nationale probablement, grosso modo, autour de 14h30. Il va y avoir beaucoup d'animations sur place. Ça va être très dynamique. Ça se veut festif, familial, citoyen, le plus large possible. Grosse manif sociale. On est bien fiers de tout ça. Il y a de l'engouement, beaucoup. On le sent, là. On entend parler en masse. Les milieux étudiants sont mobilisés. Les milieux sociaux, syndicaux et toute la gang là, de la coalition sont mobilisés. Fait qu'on a bien hâte. Sur place, il va y avoir des prises de parole, il va y avoir toutes sortes de trucs super intéressants. Puis on va s'adresser aux gens sur des trucs spécifiques. On va essayer de passer des messages vraiment concrets. Parce que la coalition est jeune, mais les revendications qu'elle porte là, se poursuivent dans le temps depuis un certain temps. Fait qu'on va taper sur le clou le plus possible.
Vous espérez avoir combien de gens?
Ben, des milliers de personnes. On attend des milliers de personnes.
Des milliers!
Puis c'est les signaux qu'on reçoit. Là. Puis en plus, ils annoncent beau.
Il annonce très beau. Il annonce 16 degrés, si je ne me trompe pas. Et du soleil pour toute la journée de samedi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Judy Coulombe du regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale, François Proulx-Dupéry, secrétaire général du Conseil central Chaudière-Appalaches de la CSN. Merci. Bonne journée.
Merci. Bonne journée.